Radio Prague, les informations.
Crise gouvernementale, les leaders de la coalition n'arrivent pas à trouver un consensus. Inauguration du hall restauré de la gare principale de Prague. Fin officielle ce jeudi du recensement de la population tchèque. Les négociations ayant eu pour objectif de trouver une solution à la crise gouvernementale actuelle se sont poursuivies ce jeudi à Prague. Dans la matinée, le président de la République Václav Klaus a reçu au château de Prague les leaders des trois partis, à savoir le chef du gouvernement Petr Nečas pour le parti civique-démocrate ODS, Karel Schwarzenberg pour Top 09 et Radek Jon, un des ministres, dont Petr Nečas exige le départ pour affaires publiques VV. Bien qu'il soit tenu, selon la Constitution, de respecter les décisions du premier ministre, le chef de l'État refuse toujours d'entériner les départs des trois ministres des Affaires publiques exigés par le chef du gouvernement Petr Nečas. Václav Klaus demande de la part du gouvernement un plan de sortie de crise avant d'accepter un remaniement. Dans l'après-midi, les leaders de la coalition ont poursuivi leurs négociations, mais n'ont pas trouvé un consensus qui leur permettrait de gouverner le pays. Ils ont pourtant déclaré leur volonté de conserver la coalition gouvernementale actuelle. Les négociations reprendront lundi prochain. Les présidents tchèques et italiens Václav Klaus et Giorgio Napolitano ont inauguré ce jeudi le hall de la gare principale de Prague après une restauration complète. Les travaux ayant duré 4 ans ont été réalisés par la société italienne Grandi Stazioni. Les frais des travaux ont atteint 1,25 milliard de couronnes, quelques 50 millions d'euros. Si l'ONU demande à l'Union européenne de participer aux opérations humanitaires en Libye, la République tchèque s'y joindrait très probablement en envoyant dans ce pays des médecins et des infirmiers. Une déclaration pour la presse de l'ambassadeur tchèque auprès de l'OTAN, Martin Povejšil. Le recensement de la population tchèque s'achève officiellement ce jeudi. Il s'agit de la dernière journée au cours de laquelle il est encore possible de remplir et d'envoyer les formulaires. Seules les personnes ayant reçu pour diverses raisons les questionnaires après le 5 avril disposent encore de quelques jours jusqu'au 19 avril pour les remplir. Le spectacle Obludarium des frères Petr et Matej Forman sera présenté fin mai aux Champs-Élysées à Paris. Jusqu'au 17 avril, la troupe présentera encore ce spectacle dans la ville de Jičín en République tchèque et ensuite elle se rendra en France. Au cours des 3 premières semaines du mois de mai, elle se produira à Metz où elle participera à un festival et puis elle installera son chapiteau à 2 étages avec une charpente métallique pour 146 spectateurs aux Champs-Élysées. Météo. Le temps reste couvert et pluvieux sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête de Vincennes. Des chutes de neige sont également attendues à partir de 600 mètres d'altitude. Les températures sont restées stables et n'ont pas dépassé 10 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter et je cède le micro à Guillaume Narguet qui vous présentera la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord l'entrée en vigueur de l'amendement à la loi sur les stupéfiants. Le président de la République a signé le texte interdisant tout usage de 33 drogues de synthèse. Plus de détails sur ces nouvelles substances accoutumantes, comme les appellent les Tchèques, dans quelques instants. L'autre question qui taraude cependant certains est de savoir si le président tchèque Václav Klaus a signé cet amendement avec le stylo ramené de sa récente visite au Chili. La vidéo montrant le chef de l'État mettant discrètement un stylo chilien dans la poche de sa veste pendant une conférence de presse a en effet fait le tour du monde sur Internet. Clin d'œil donc sur ce fait cocasse. Cela avant de revenir à une actualité plus sombre, Miroslav Tichý, considéré comme un des plus grands photographes du XXe siècle, et le philosophe et essayiste Zdeněk Vašíček sont décédés en ce milieu de semaine. Leur portrait à la fin de ce journal, avant la rubrique du jour consacrée à un autre portrait, celui de la plasticienne Adriana Shimotova. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. « Le président de la République, Václav Klaus, a signé mercredi l'amendement qui place 33 nouvelles drogues de synthèse sur la liste des stupéfiants interdits en Tchéquie. Il s'agissait de réagir à la diffusion de nouvelles substances, lesquelles sont directement vendues sur Internet ou dans des magasins spécialisés à la frontière avec la Pologne. 16 boutiques de ce type et près de 80 sites Internet ont été recensés. De plus, il a été mis en évidence que les centres de production de ces drogues ne se trouvent pas en Pologne, comme les autorités le pensaient, mais sur le territoire tchèque lui-même. Plus de détails avec Pierre Maignan.
La police avait en effet découvert au mois de mars un laboratoire de fabrication de drogues de synthèse à Český Těšín, en Moravie du Nord, région où ce commerce périclite. Pour autant, cet amendement est-il une bonne réponse face à une industrie narcotique qui a souvent un temps d'avance sur les autorités ? Effectif vers la fin du mois d'avril, il ne semble, en tout cas, ne satisfaire presque personne. Il y a bien évidemment des arguments dans le sens de cette interdiction, ou en tout cas d'un encadrement de ce commerce, tel que celui avancé par le directeur du centre médical de désintoxication, Jiří Purcell.
Les gens ne savent jamais ce qu'ils ont acheté et bien souvent, il est probable que les vendeurs ne connaissent pas non plus le produit qu'ils vendent. C'est ça le problème.
Pavel Bem est l'un des instigateurs de cet amendement. Membre du Parti civique démocrate, ODS, il avait un temps participé à la commission gouvernementale antinarcotique en sa qualité de médecin. Il se réjouit de cette interdiction au nom de la protection de la jeunesse. Cependant, Pavel Bem reconnaît qu'allonger la liste des stupéfiants illégaux ne résout en aucun cas le problème. Les chimistes des organisations qui gèrent cette production ont ainsi jusqu'à fin avril pour mettre à profit leurs imaginations et réinventer des substances qui ne tomberont pas sous le coup de la loi. Au ministère de la Santé, c'est le processus législatif qui est incriminé, jugé trop long. On y prépare donc une réforme afin de permettre au ministère de décréter directement l'interdiction de tel ou tel produit. Directeur de la centrale antidrogue, Jakub Friedrich, va plus loin dans la critique de ce texte.
Il me semble que cet amendement passe à côté de l'important.
Tout le monde dans le processus législatif se rend bien compte du besoin pressant d'un changement d'orientation. Ces substances sont aptes à contourner le système pénal tchèque.
De nombreux sénateurs eux-mêmes savent que ces nouvelles réglementations ne sont pas efficaces pour lutter contre les réseaux de trafiquants de drogue. C'est le cas du sénateur ODS, Przemysl Sobotka, qui pointe du doigt certains pays qu'il se refuse à nommer et où les laboratoires clandestins seraient peu inquiétés. Son collègue du parti d'opposition CSSD, social-démocratie, Vladimir Drimel, se demande lui pourquoi l'hygiène publique et l'inspection tchèque des commerces ne sont pas plus impliqués dans la prévention des risques que présentent ces drogues et dans le suivi et le contrôle de ces magasins spécialisés. À noter enfin que cette mesure permet de respecter le droit européen, puisque certains produits concernés, tels que la méphédrone relativement populaire en Tchéquie sous le nom de Mňahu Mňahu, ont été interdits en décembre 2010 dans toute l'Union européenne.
Et puis donc, l'autre question est de savoir si le président tchèque, Václav Klaus, a signé cet amendement sur les drogues de synthèse avec son fameux stylo chilien. C'est une des vidéos qu'il a eu le plus de succès depuis 3 jours sur Internet. Quelques secondes pendant lesquelles on voit d'abord le président tchèque, Václav Klaus, admirer un stylo posé sur la table par ses hôtes, stylo qu'il met ensuite discrètement dans sa poche pendant la conférence de presse commune avec le président chilien. En quelques heures, Václav Klaus est devenu une star du web. Alexis Rosenzweig.
Václav Klaus est l'une des nouvelles stars du web. Le président tchèque a été pris en flagrant délit de vol de stylo. La scène a déjà été vue plus de 500 000 fois sur Internet. Elle a eu lieu le 4 avril dernier lors de la signature d'un accord sur le tourisme avec son homologue chinois.
Vous entendez la chaîne européenne Euronews qui a elle aussi consacré un moment d'antenne à cette savoureuse séquence dont le président tchèque est la vedette. Le phénomène est impressionnant de vitesse et d'ampleur. Václav Klaus est même sur la page d'accueil du site de la BBC sous le titre « Le président tchèque empoche un stylo officiel ». Déjà plus de 2 millions d'internautes avaient visionné jeudi matin la première vidéo mise en ligne, mais le nombre total est beaucoup plus élevé si on additionne tous les sites qui ont repris ce clip. À la base, C'est Čete Jedna, la première chaîne de la télévision publique tchèque, qui avait diffusé cet extrait dans son émission du dimanche, 168 heures. Une équipe de la chaîne avait accompagné le chef de l'État pendant son voyage de plusieurs jours en Amérique latine. Dans le clip diffusé, une bande-son de type enquête policière a été ajoutée, avec des traits et un rond rouge permettant de suivre, un peu à la façon du décortiquage des actions de foot ou de hockey sur glace, le trajet du stylo depuis sa boîte jusqu'à la poche de la veste du président. Interrogé à son retour sur son barbotage, le chef de l'État a rétorqué qu'il était courant de prendre les stylos des différentes rencontres et sommets, et d'ajouter qu'il ne s'agissait pas d'un stylo plume en or, mais d'un stylo à billes. Mais le quotidien Pravo a poussé l'enquête et le service de presse de la présidence chilienne lui a précisé que les stylos du protocole officiel étaient des produits artistiques, fabriqués par des bijoutiers locaux et incrustés de lapis lazuli, une pierre semi-précieuse. Les médias français, très nombreux également à avoir repris la vidéo, rappellent que Nicolas Sarkozy avait lui aussi emporté un stylo lors d'une rencontre officielle avec son homologue roumain. À la différence de Václav Klaus, le président français avait cependant fait un geste à son homologue pour lui demander la permission. Un groupe tchèque a été créé sur Facebook pour organiser une collecte de stylos et les apporter au président le 2 mai prochain, étant donné, je cite, qu'il semble ne rien avoir pour écrire. D'autres disent que c'est la raison pour laquelle Václav Klaus a mis autant de temps avant de signer le traité de Lisbonne.
Et puis le photographe Miroslav Tichý, né en 1926, et le philosophe et essayiste Zdeněk Vašíček, né en 1933, s'en sont allés mardi et mercredi. Retour sur la vie et l'œuvre de deux personnalités de la culture tchèque qui étaient des amis avec Anna Kubišta.
Si le monde a découvert le photographe Miroslav Tichý et ses clichés flous en 2005, ce Diogène voleur d'images en douce était pourtant connu de certains proches. Le philosophe et essayiste tchèque Zdeněk Vašíček était de ceux-là. Et lorsqu'en 2005, la vague Tichý déferle, que les articles se multiplient avec leur lot de polémiques parfois bien stériles, Zdeněk Vašíček remet les choses en place quand on l'interroge. Tous les deux sont originaires de Kyiv, en Moravie, et les deux hommes se connaissent. Dans un entretien pour Respect, à l'époque, Zdeněk Vašíček, de quelques années son cadet, évoquait ses souvenirs.
Déjà à l'époque, il me fascinait par son indépendance et ses points de vue. Il était capable de parler des heures de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de ce que cela a représenté pour l'Europe, et il passait à l'idéal du corps féminin pour finir par disserter sur Kierkegaard.
Si Miroslav Tichý a fait des études aux Beaux-Arts à Prague dans les années 50, l'époque est plus au réalisme socialiste qu'à la célébration de l'éternel féminin. Tichý se renfermera sur lui peu à peu dans les années 50, faisant de la marginalité sa forme de vie. Plus tard, il commence à photographier obsessionnellement les femmes de sa petite ville sous le manteau avec des appareils fabriqués par ses soins. Il accumule des milliers de clichés révélant chez les femmes de Kyiv autant d'odalisques et de muses cachées au commun des mortels. Lorsque dans les années 2000, le psychiatre suisse d'origine tchèque Roman Buxbaum, également de Kyiv, fait des photographies de Tichý, des objets d'art et de galeries, la polémique enfle sur la légitimité d'exposer des œuvres dont Tichý refuse toute publicité. Au-delà des querelles intestines dans le petit monde de l'art, une chose est sûre, une fois ces photos sorties de l'ombre, difficile de ne pas y voir une démarche artistique, quelle qu'ait été la volonté première de son créateur. À n'en pas douter, avec la disparition de Miroslav Tichý mardi, à l'âge de 84 ans, c'est un des plus grands photographes tchèques du XXe siècle qui s'est éteint. Et son ami Zdeněk Vašíček, gravement malade, nous a également quittés mercredi. L'auteur de cet article ayant également connu et apprécié le bonhomme, il est quelque peu difficile de se résoudre à faire un résumé bref d'un personnage aussi riche. On pourrait évidemment répéter qu'il a fait des études de philosophie et d'histoire à Prague, qu'il a été condamné en 1972 à 3 ans de réclusion, qu'il a travaillé comme ouvrier à sa sortie de prison, qu'il a été l'un des premiers signataires de la charte 77, qu'il a encore émigré dans les années 80 et a vécu en France. Tout cela est vrai, mais peu complet. Pour Françoise Maillère, directrice du CEFRES et surtout son amie de longue date, Zdeněk Vašíček était avant tout un homme de la Renaissance. Homme d'une érudition et d'une ouverture d'esprit Comme on n'en trouve plus guère, il était aussi de ceux qui savent partager ce savoir, qui suscitent l'envie de penser, de réfléchir. Disponible, curieux, Zdeněk Vašíček s'entourait d'amis et de proches de toute catégorie sociale et de toute catégorie d'âge, sans distinction, distribuant avec malice, parfois avec colère, mais toujours avec enthousiasme, ses idées, ses opinions. Comme le rappelle Françoise Maillère, Zdeněk Vašíček n'était pas un homme de clan, chérissant avant tout ce qui fait qu'un homme est un homme, la liberté en toute chose. D'ailleurs, Zdeněk lui-même disait des personnes qu'il admirait qu'elles étaient un tchloviek, quelqu'un, un homme. Avec la mort de Zdeněk Vašíček, c'est aussi quelqu'un qui disparaît, et nos pensées vont en ces jours difficiles vers sa famille et ses proches.
C'est déjà la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. La rubrique du jour est consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. Le travail est un pilier sur lequel repose mon existence, dit la plasticienne Adriana Šimotová dans le catalogue de sa récente exposition pragoise organisée à l'occasion de ses 85 ans. Cette exposition est en deux parties. La première, qui jette un regard en arrière, est à voir jusqu'au 25 avril au musée Kampa, et la seconde, consacrée aux nouveaux travaux d'Adriana Šimotová, est ouverte jusqu'au 19 juin prochain à la galerie Rudolfinum. Étroitement liée à la France, Adriana Šimotová est une des plus importantes artistes tchèques contemporaines, une femme remarquable et courageuse. Ses tragédies personnelles, l'histoire troublante de son pays, la richesse de sa vie intérieure, tout cela se reflète dans ses travaux sur papier, son matériel de prédilection admiré tant en République tchèque qu'à l'étranger. Rencontre avec Adriana Šimotová tout de suite dans les Tchèques célèbres et moins célèbres, un magazine présenté par Magdalena Rozinková.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Ma grand-mère était suisse romande, elle était née à Yverdon. Elle vivait avec la famille de mes parents et avec moi jusqu'à mes 12 ans. J'étais en France pour la première fois quand j'avais déjà 30 ans. Parce qu'avant la guerre, j'étais petite. Pendant la guerre, on ne pouvait pas voyager. Et après la guerre, on ne pouvait non, de nouveau plus voyager. Jusqu'à 64, j'ai fait beaucoup de, si on ne peut pas dire paysages, mais quelque chose de la nature. C'était plutôt des reflets de l'eau. Moi, toujours, je pensais que c'est quelque chose qui se ressemble à la musique de Debussy, oui.
Ce premier voyage en France, Adriana Šimotová l'a effectué en 1959. Dans sa monographie française intitulée « L'œil éphémère » et éditée en 2002 à l'occasion de son exposition au Musée des Beaux-Arts de Dijon, l'artiste se souvient.
En général, l'idée que nous nous faisons des choses ne correspond pas à la réalité. Mais dans ce cas, Paris était absolument semblable à ce que j'avais dans mes rêves. Je me souviens par exemple de mes promenades d'enfant avec ma grand-mère dans les parcs de Prague. Je traînais des pieds dans les feuilles mortes et je me disais que ce devait être à peu près à cela que ressemblaient les jardins français. Et en effet, les feuilles mortes des Tuileries ressemblaient beaucoup à celles de mon enfance.
En 1968, Adriana Šimotová revient en France, en Bretagne et à Paris, cette fois-ci en compagnie de son mari, le peintre et graveur Jiří Jón. Elle retiendra de ce séjour notamment une rencontre avec Josef Šíma, peintre tchèque installé à Paris, qui avait alors exposé au musée d'art moderne. Elle se souviendra d'une table de bois sur laquelle brillait le soleil, de Josef Šíma leur apportant une omelette flambée. La France représente donc pour Adriana Šimotová des sensations, des images, des couleurs, des odeurs. C'est aussi un certain équilibre qu'elle dit avoir retrouvé dans la culture française, l'équilibre entre la vie et l'art, le sentiment et la raison, entre le contenu et la forme. Dans les années 60, Adriana Šimotová est une artiste accomplie. Diplômée de l'École des arts graphiques et de l'École supérieure des arts décoratifs de Prague, elle est membre du célèbre groupe artistique d'après-guerre UB12. Dans sa création, Adriana Šimotová se détache de la peinture réflexive inspirée par des paysages et des milieux urbains pour se concentrer pour le reste de sa vie en fait sur le motif de la figure humaine.
Après le 64, alors j'ai trouvé mon thème, l'homme, le personnage, et ça c'est déjà qui m'est resté jusqu'à maintenant, sauf les natures mortes, les choses, mais ce sont aussi des choses qui sont toujours touchées par quelqu'un, ce sont des choses qui jouent un rôle pour un personnage qui ont la vie. Ce n'est pas n'importe quoi.
Pensez-vous que les objets qui nous entourent, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ont une force magique?
Pour moi, oui. J'avais une exposition à Plzeň il y a 8 ans, je crois, que j'appelais « La magie des choses ». Et quand je vois un escalier et on voit qu'il est un peu courbé par les pas, alors ça me fascine, ces traces.
Pourquoi vous vous intéressez toute votre vie à l'être humain, au visage humain, aux gestes humains? D'où vient cette passion?
Parce que je l'aime l'homme infiniment, même avec toutes ses fautes. Ce n'est pas un idéalisme parce que je connais le mal si bien comme le bon. Peut-être que je connais mieux le bon que le mal, mais je ne peux pas me débarrasser d'un accrochage pour l'homme et pour sa trace. Les dernières 20 ans, je travaille vraiment seulement, presque seulement avec du papier. Du papier très différent, ça peut être du papier calque, ça peut être du papier chinois, ça peut être du papier fait à main, n'est-ce pas? Ça me fascine parce que le papier réagit très sensiblement sur les mains, oui, quand je fais, parce que je travaille beaucoup aux mains. Avant, je travaillais aussi sur le tissu, et ça, c'était un peu trop artificiel. Le papier a plus de métaphysique en soi. Ce n'est pas si seulement une décoration, c'est un peu plus profond.
En effet, la matière dont Adriana Shimotova s'approprie le papier est assez exceptionnelle. Elle se concentre sur les procédés de perforation, arrachage, collage, frottage. Ces dessins perforés sur des rouleaux de papier carbone à multiples couches, ces frottages opérés à son propre corps ou au corps de ses proches, réalisés entre 1975 et 1991, sont exposés au musée Campa. On y retrouve les travaux que l'artiste a réalisés dans les années 70 et 80, notamment ceux créés dans un ancien monastère franciscain désaffecté à Hostinet, au pied des Monts des Géants. Retirée de la scène officielle et marquée par la mort de son mari en 1972, elle y crée des dessins monumentaux qui sont aujourd'hui au cœur de la collection d'art contemporain de Madame Latkova, la fondatrice du musée Campa. Jusqu'à la chute du régime communiste, Adriana Shimotova expose dans un cadre non officiel. La situation change au début des années 90, où l'œuvre de Shimotova est montrée un peu partout en Europe et bien sûr redécouverte dans son pays, où sa grande rétrospective a lieu en 2001 à la Galerie Nationale. Invitée par la Galerie de France, Adriana Shimotova peut également travailler à Paris.
La Galerie de France m'a loué un atelier, un studio de Centre Pompidou. Et trois fois, je travaillais 2 ou 3 mois là-bas. Alors, c'était pour moi formidable parce que j'étais tout à fait libre et je pouvais faire ce que je voulais. J'étais tout en face, dans la petite rue de Venise, en face de Centre Pompidou. Alors, on pouvait le soir aller voir ce qu'on voulait seulement.
En 1996, 2 ans après la disparition subite de son fils Martin, Adriana Shimotova expose à la Galerie de France à Paris un cycle de dessins intitulé « Mémoire de famille ».
Je ne savais pas comment survivre. Justement, j'ai commencé à évoquer les visages de mes parents, de mon mari qui est aussi mort jeune. Cette évocation est devenue un bonheur, est devenu un peu positif, parce que avant, j'étais plutôt fixé pour un regard existentialiste, un peu dépressif. Et dans les derniers travaux, où j'étais la plus triste, alors j'ai trouvé un éclairage ou une lumière positive.
Même les récents dessins d'Adriana Shimotova, fragiles comme le papier qu'elle utilise et exposés à la petite galerie du Rudolfinum, dégagent cette lumière d'espoir. Cette petite femme au chignon blanc, souffrant d'une maladie dont elle ne parle jamais, continue à travailler dans son atelier sous le toit d'un immeuble ancien dans le quartier de l'Etna. Ne pouvant plus dessiner par terre, elle est assise sur une chaise et travaille à l'aide d'un long pinceau. Ces fameux frottages sont en fait des empreintes des corps humains dessinés avec des pigments de couleurs vives. Les silhouettes, les jambes, les bras, les têtes qui apparaissent ainsi sont comme venues d'un autre monde. Elles reflètent les états d'âme de l'auteur, à la fois enfermés dans son monde intérieur et ouverts aux autres, états d'âme qui peuvent être fortement ressentis par le spectateur. Par ailleurs, dans sa monographie française, Adriana Shimotova a écrit
« Une fois, j'ai noté « Chim se osobnejshi, tim se obecnejshi. Plus tu es toi, plus tu es tous. »
Rappelons encore que les œuvres d'Adriana Shimotova sont exposées jusqu'au 25 avril au musée Kampa à Prague et jusqu'au 19 juin à la galerie Rudolfinum, toujours dans la capitale tchèque. Et c'est ainsi que se referme pour aujourd'hui le bloc Actualité qui vous a été proposé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.